Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
D'être déprimé toute sa vie parce qu'on n'est vraiment pas à sa place, c'est pas bon non plus, c'est pas sain non plus pour l'entourage. Même s'il y a l'argent qui rentre, ben si t'es malheureux toute ta vie, c'est pas ça non plus quoi. Bizarrement, je me laisse porter par les étapes et je disais la dernière fois, donc il y a 7 mois, que j'aurais certainement très peur quand j'aurais fini l'école, fini le stage et que je serais dans le grand bain sans mes brassards. Et là j'y suis, mais finalement ben, je nage bien, je fais mes petites longueurs petit à petit et une après l'autre. Enfin, je suis moins anxieuse et stressée que d'habitude. En fait, je prends beaucoup plus de plaisir, donc ça me conforte bien dans le fait que bah, je suis ravie d'être à cette nouvelle place-là.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Quel plaisir de retrouver aujourd'hui Émilie pour notre 3e rendez-vous. Vous allez voir, il s'en est passé des choses. Depuis l'enregistrement, j'ai le plaisir de vous annoncer que le site internet d'Émilie est en ligne. Vous n'aurez donc pas à attendre pour découvrir plus longtemps le petit teasing qu'elle fait dans l'épisode. Je vous mets les liens de son site sur pourquoipasmoi.co. Et si toi aussi tu rêves d'être à ta place comme Émilie et que tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai créé le programme que j'aurais adoré suivre. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Allez, place à la merveilleuse Émilie Martinet.
Bonjour Émilie.
Salut Charlotte.
Je suis très heureuse de te retrouver pour notre 3e rendez-vous. Comme on se le disait, bon, on a un petit peu dépassé les 3 mois parce que finalement, ça fait 7 mois qu'on s'est, ouais, qu'on s'est parlé. À l'époque, tu étais donc à l'école. Et, oui. Et tu venais de mettre en location le premier appartement que tu avais rénové.
C'est ça, ouais. Et effectivement, c'est ce qu'on se disait en préambule, c'est que c'est bien que ça fasse un petit peu plus que 3 mois qu'on ne se soit pas parlé parce que il s'est passé dans les tout derniers mois, toute dernière semaine, il s'est passé beaucoup plus de choses. Donc, je vais avoir beaucoup plus de trucs à te raconter.
Cool. Alors, vas-y, ouais, raconte-nous où est-ce que tu en es.
La formation, je l'ai terminée, oui, parce que la dernière fois, j'avais commencé depuis 2 mois, donc la formation durait 6 mois, finalement, j'ai fait 2 mois de stage, hein, parce que je parlais du stage que je devais trouver, donc finalement, j'ai trouvé assez facilement.
C'était quoi, du coup, vite. Ce stage?
J'ai fait un stage en cabinet d'architecture intérieure, donc dans une structure qui est quand même assez importante vu le secteur. Il y a ce que c'est une entreprise de travaux à la base et qui ont conçu un cabinet d'archi d'intérieur en interne. Donc ils ont une dizaine d'archi d'intérieur, donc ce qui est quand même assez gros pour le secteur. Et du coup, j'ai un petit peu gravité, papillonné avec un peu tous les archis sur les différents projets. Donc, je suis allée sur des visites d'appart, de chantier. J'ai fait pas mal de choses et j'ai fait 2 mois finalement de stage.
Pourquoi? Tu pouvais en faire plus ou moins?
Oui, en fait, on devait faire 3 semaines minimum. Et donc, après, je suis restée ouverte en fonction des rencontres. Voilà, donc on m'a proposé 2 mois. Je trouvais que c'était bien parce que c'était un peu plus long que les minimum 3 semaines. C'était vraiment court. Et je pouvais faire beaucoup plus. Mais au bout d'un moment, j'ai le pôle emploi qui tourne. Et puis, c'est bien les stages parce que c'est très formateur, mais ça rapporte rien. Et puis, je lance pas l'activité en parallèle. C'était difficile de tout faire en même temps. Donc, je me suis dit que c'était un bon compromis pour apprendre un petit peu plus et puis me garder du temps ensuite pour lancer l'activité parce que j'ai déjà perdu 5 mois avant à cause du confinement et du décalage de la formation. Donc, je ne peux pas me permettre non plus d'attendre trop, trop longtemps avant de gagner ma vie.
Ouais. Et le stage, est-ce que ça a été difficile de le trouver? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question.
Ouais, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question pour la formation, parce que j'ai encore beaucoup de contacts.
Donc c'est MMI Déco, pour on l'avait ça. Dit dans les épisodes d'avant. MMI. Mais
moi j'ai eu de la chance parce que en gros c'est mon troisième CV que j'ai envoyé qui a marché et j'ai passé l'entretien, ça s'est super bien passé. Ils m'ont répondu dans la semaine que c'était OK, donc j'ai pas beaucoup cherché, j'ai envoyé une vingtaine de candidatures en tout. J'ai trouvé vraiment assez vite. Et il y en a qui ont un peu plus galéré. Donc, je pense que j'ai eu de la chance parce que la conjoncture, le contexte fait que en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Et il y a le secteur qui fait qu'il y a beaucoup d'archis qui sont seuls et qui n'ont pas forcément de temps à accorder à une personne en plus. Alors, soit elles vont prendre quelqu'un pour les exploiter, entre guillemets, sur faire de la 3D à gogo pour les dépatouiller. Et après, il faut tomber sur quelqu'un qui va vraiment apprendre toutes les ficelles du métier. Donc, ça a été assez varié dans la promo. Donc, si je parle que pour moi, ça a été facile, mais je pense que j'ai eu de la chance. Tu parles beaucoup de chance en podcast. Bon, sur ce coup-là, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai juste envoyé mon CV au bon moment, à la bonne personne.
Personne que tu ne connaissais, ni d'Ève, ni d'Adam.
Non, du tout. J'y suis allée au culot. J'ai contacté un des cofondateurs sur LinkedIn au culot en lui disant, voilà, je cherche un stage, j'aime bien votre boîte. Et puis il a pris mon CV et il a transmis en interne et ça s'est fait comme ça. Mais, après, il y en a qui ont fait des très bons stages avec des indépendantes, qui, je dis au féminin parce que c'est beaucoup des femmes, qui leur ont appris plein de choses, qui les ont traînées sur tous les chantiers, etc. Et c'était très, très formateur. Et d'autres, très peu finalement, qui ont commencé un stage quelque part et qui ont arrêté au bout de quelques jours ou quelques semaines parce qu'elles se sont rendues compte que c'était plus de l'exploitation qu'autre chose, mais ça, c'est vraiment 2-3 cas isolés, quoi.
Donc, ça, je pense que c'est un truc qui est important. Alors, on est un peu c'est une petite parenthèse, mais je me rappelle, tu vois, mon stage de fin d'études quand j'étais en école de commerce, c'était donc un stage de 6 mois. Et j'ai commencé mon stage dans une boîte où c'était deux mecs, deux frères qui avaient monté cette boîte. C'était des robes du soir. C'était sur le papier, canon. L'idée, c'était de faire à la fois du marketing et à la fois du commercial. Et puis, je suis arrivée, c'était au moment de la Fashion Week. Et donc, il y avait un énorme salon professionnel. Donc, il fallait bosser le week-end, pourquoi pas. Et donc, je me retrouve à discuter avec une stagiaire. Et il y avait les deux fondateurs et genre 4 ou 5 stagiaires. Et là, elle m'a dit, mais en fait, barre-toi. ils te promettent que tu vas faire du marketing, que tu vas faire des ventes, que tu vas faire ça, mais en fait, absolument pas. En gros, c'est juste des exploitants de stagiaires.
Et là, je me suis dit, la mode, c'est un peu réputé pour ça. Bon, je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais ça fait un peu le diable s'habille en Prada, quoi.
Ouais, c'est clair. Et du coup, je me suis dit, tu vois, j'étais stage de fin d'études. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Enfin, je peux pas, en plus, sentimentalement, à ce moment-là, c'était très compliqué dans ma vie. Je me suis dit, si ma vie perso, ça va pas. Si mon stage, enfin, je peux pas me permettre de ça. Et une fois encore, les étoiles se sont alignées parce que, c'était un pote sur MSN, donc c'était vraiment un pote entre guillemets, m'avait dit quelques mois avant, écoute, si tu cherches un stage, on cherche dans ma boîte. Et j'avais dit, t'es mignon, j'ai déjà trouvé. Et là, je me suis dit, je vais le relancer, tu vois, sur un malentendu, ça va marcher, quoi. Et il s'avère que je le recontacte, il ne me répond pas. Et au bout de 3 jours, je me dis, tant pis, c'est comme ça, un peu fataliste. J'avais la convention de stage dans la main, mon manteau sur les épaules. Et là, il m'appelle, il me dit, écoute, la stagiaire qu'on avait trouvée vient de planter la directrice marketing. Écoute, du coup, il y a un poste et la directrice marketing est un peu dans la merde. Donc, en gros, limite, elle a besoin de toi, tu vois. Et la petite histoire a fait que j'ai eu le job et puis que ce mec est accessoirement aujourd'hui mon mari et le père de mes enfants.
Et je crois que j'ai déjà entendu cette histoire dans un épisode.
Ouais, avec Pauline Dorgeval, ouais. La fondatrice de Millenis. Donc comme quoi, si un stage ne vous plaît pas, il faut surtout pas être fataliste. Et puis et sur un malentendu, vous trouverez encore mieux qu'un stage derrière.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais enfin, mon stage de fin d'études aussi, quand j'étais en école de commerce, ça a commencé. J'étais super contente d'avoir trouvé dans une très grosse boîte. Et puis, je devais faire 6 mois aussi. Et les premières semaines, je m'ennuyais à mourir parce que j'avais une maître de stage qui était chef d'un service énorme et qui était en réunion tout le temps et qui avait absolument pas le temps de s'occuper de moi. Donc, je faisais vraiment pas café photocopie, mais presque quoi. En troisième année d'école de commerce, j'en pleurais. Je me disais, mais c'est pas possible. J'avais pas fait d'alternance, donc c'était vraiment mon expérience avant de me lancer. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais partir. Et je me suis dit, avant de dire je vais partir, je vais chercher autre chose, faut parler quoi. Mais quand on est jeune, c'est pas évident d'aller voir quelqu'un qui a un gros poste, qui te semble pas très accessible. Et je me suis dit, bon, allez, prends ton courage à deux mains, tu lui parles et tu lui expliques et tu verras bien. Et ça s'est hyper bien passé. Elle s'est excusée et elle m'a dit, écoute, je vais mettre quelqu'un de mon équipe en maître de stage plutôt que moi parce que je suis tellement pas dispo pour toi que ce sera pas intéressant du tout. Et elle m'a mis avec un gars qui était assis à côté de moi dans l'équipe et il s'est super bien occupé de moi et j'ai tellement adoré mon stage que je l'ai prolongé de 3 mois.
Ouais, comme quoi, en effet, soit tu sais qu'il n'y a pas de solution, et puis voilà, mais en effet, en parler, t'as complètement raison.
Ça fait peur quand on est jeune et que voilà, moi, j'ai un contact facile, mais j'étais un peu timide à ce niveau-là et je me suis dit, bon, allez, il faut parler, sinon tu vas te morfondre tout le temps et ton stage va être pourri et complètement raté et finalement, j'ai eu beaucoup plus de responsabilités après. Quand je suis partie, je fais un pot de départ. Les gens pensaient que j'étais en CDD parce que je faisais le même job que les autres. Enfin, c'était génial, quoi. Et comme quoi, ça vaut le coup.
C'est sûr. Et alors, est-ce que ce stage a confirmé le fait que ça te plaisait, ce métier?
Donc, on parle de...
oui, là, on parle de l'archi. Non, pas celui en troisième année.
Oui, complètement. Oui, enfin là, je pense que j'avais déjà plus de doutes, mais oui, complètement. Par contre, ça m'a fait prendre conscience d'une chose que je trouve assez importante, c'est des compétences que j'avais par ailleurs avant, qui me servent. Enfin, j'en avais déjà la conviction que tout ce que j'ai appris dans ma vie d'avant, toute l'expérience que j'ai eue avant, qui est a priori dans un secteur qui n'a rien à voir, bah ça a vraiment une grande utilité parce que j'ai discuté avec une des archis de l'équipe qui était assez jeune hein, et qui elle était sortie d'école depuis peu de temps, à peine quelques années, et qui me disait que finalement quand elle discutait avec les clients, elle avait pas la facilité de comprendre bien leurs besoins, leurs attentes et de bien vendre son projet une fois qu'elle avait quelque chose à leur présenter. Elle avait du mal à les faire adhérer à ce qu'elle présentait. C'était un exercice qui n'était pas facile pour elle et qu'elle aimerait bien avoir une formation commerciale, en fait. Donc, c'est rigolo de se dire, finalement, c'est hyper complémentaire parce que dans ce métier-là, souvent, tu es seule, mais même elle qui n'était pas seule, pourtant, il y avait des commerciaux. Mais les commerciaux sont pas archi, donc ils sont moins techniques. Et c'est bien d'avoir les deux, en fait.
Mais clairement, enfin, tu vois, moi, je vois là, je suis en plein de travaux parce qu'on vient d'acheter une maison et on a rencontré différents entrepreneurs et compagnie. Mais il y en a, ils te font peur, en fait. Clairement, tu as deux approches quand tu présentes un projet. Ça va être de te faire rêver, mais en étant conscient des contraintes techniques, ou de te parler exclusivement de contraintes et t'expliquer à quel point ça va être compliqué.
La part de rêve, la part de technicité pour rassurer. Enfin, faut donner envie, mais faut rassurer. C'est un exercice qui est très très complexe. Et c'est vrai que tout le fait d'avoir fait du commercial avant, ou même les gens qui viennent de la com ou du marketing, c'est des profils qui essentiels. Enfin, dans l'école que j'ai faite, c'est beaucoup du marketing, de la com et du commercial. C'est ma grande majorité. Et enfin, faut qu'ils se rassurent que il y a plein de compétences qu'ils ont développées, même tout ce qui est gestion de projet, tout ça. Enfin, c'est essentiel derrière pour les projets d'archi, quoi.
Et puis même le marketing. Marketing et com, tu vas amener le projet d'une certaine façon. Enfin, tu vas présenter des planches. Tu vas y apporter un soin particulier parce que tu sais à quel point l'image est importante.
Voilà. Déjà concrètement pour les projets au quotidien, et aussi quand on se met à son compte, ça sert aussi à marketer son offre, à s'exprimer, à expliquer ce qu'on fait. Enfin, ça nous aide à être plus clair aussi à ce niveau-là.
Carrément. Et donc là, du coup, tu es diplômée ?
Alors, oui. Alors, c'est une certification. Okay. Alors, il me manque un tout petit truc parce que on a, sur les trois, moi, j'ai fait les 6 mois de formation. Donc, sur les 3 premiers mois, on avait une étude de cas à rendre sur la partie déco qu'on avait 1 an pour rendre. Donc, j'ai jusqu'à novembre pour la rendre. Je vise de la rendre en juillet parce que j'ai pas eu du tout le temps d'avancer beaucoup dessus pendant SP Archi et pendant mon stage. Donc là, j'ai bien avancé sur le projet, mais j'ai un 80 mètres carrés à refaire, enfin tout un plan, tout un dossier à faire, comme si on remettait le dossier aux artisans pour faire les travaux. Hein, donc c'est vraiment très abouti. Donc il me reste que ce truc-là à rendre. Parce que sur l'aspect archi, l'examen, on l'a passé la dernière semaine des 3 mois. On a eu 4 jours pour faire une énorme étude de cas enfin, c'est un cas fictif, mais pour une entreprise. Et là, c'était hyper intense et on l'a passé tous ensemble, enfin de façon individuelle. Mais la dernière semaine de cours, et là, on était sur les rotules à la fin, quoi. Mais bon, ça, c'est validé, c'est très bien validé même. J'ai une très bonne note, donc je suis contente. Et c'était très formateur. Et ensuite, bon, bah, j'ai fait le stage de 2 mois que j'ai fini fin mai, fin avril. Et au mois de mai, bah, j'ai commencé tout de suite, j'ai enchaîné. Bon, j'ai pris 4-5 jours de vacances, mais sinon, j'ai enchaîné.
Comment tu as osé prendre des vacances?
Ouais, j'ai osé.
Mais non, c'est bien. Tout le monde dit, ah, mais quand t'es entrepreneur, prendre des vacances, mais c'est hyper important de savoir se reposer pour pouvoir mieux repartir.
Oui, parce que là, ouais. même les vacances que j'ai eues à Noël, Nouvel An, déjà, ces vacances-là, en général, c'était pas très reposant, mais en plus, j'ai bossé. Donc, j'ai bossé pour l'école, j'ai bossé sur un projet perso, j'ai fait des plans, etc. Donc, du coup, je me suis pas du tout reposée. Et donc là, j'ai pris 4-5 jours pour me reposer, mais j'ai commencé à bien bosser mon étude de cas à rendre. Et puis surtout, j'ai créé ma société.
Génial. Donc du coup, tu as créé quoi comme type d'entreprise?
Donc finalement, j'ai créé une SARL. Alors au départ, j'hésitais entre la SASU et l'auto-entreprise. J'ai assez vite éliminé l'auto-entreprise ou micro-entreprise. Je sais jamais, on dit les deux, mais... parce que je voulais y aller vraiment et parce qu'on voulait aussi séparer bien perso et bien pro, enfin pour en cas de souci sur l'entreprise qu'il n'y ait pas de problème au niveau perso. On n'a pas un patrimoine de fou, mais
non, mais bon clairement
que ça protège un minimum le peu qu'on a à côté. Et puis je me suis dit je vais y aller, enfin j'ai tout plaqué, j'ai fait cette formation, j'ai tout investi, j'ai payé cette formation de ma poche, etc. Puis c'est aussi quand on a une vraie société plutôt qu'une micro-entreprise, c'est qu'on a un actif, un passif, on a une vraie comptabilité, on peut passer des choses en charge. J'ai pris un expert comptable qui m'a conseillé aussi sur les différents statuts. Et finalement, il m'a fait des simulations avec mes prévisions de chiffre d'affaires, etc., que je lui avais présentées, en me disant, finalement, la SASU... En fait, ce qui me rassurait dans la SASU, c'était le fait que ça ressemblait beaucoup au statut cadre du salarié. Et comme j'ai jamais créé de boîte avant et que je me voyais même pas un jour, enfin, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est que je m'imaginais même pas un jour être à mon compte, ça me rassurait, en fait, je pense, de ce statut-là, parce que ça ressemble énormément. C'est assimilé salarié, c'est assimilé cadre, et ça me rassurait d'être dans ce même mode de fonctionnement qu'en SARL, on n'est pas assimilé salarié comme dans une SASU. Donc c'est ça qui avait fait que j'avais éliminé ça au départ, mais il m'a fait des simulations par rapport si je fais tant de chiffre d'affaires, si je veux me payer tant, les charges, etc. Et il n'y avait pas photo, c'était beaucoup plus intéressant financièrement de faire la SARL. Alors la SARL, c'est, enfin je suis toute seule, mais donc normalement une SARL c'est aussi pour être associée à plusieurs, mais il me l'a fait monter comme ça tout de suite au niveau des statuts, au cas où un jour je veux m'associer avec quelqu'un, comme ça j'ai pas à changer mes statuts. Donc normalement quand on est seul, on n'est pas obligé d'être en SARL, mais au moins c'est prêt au cas où, et j'aurai pas d'autres frais de greffe pour changer les statuts après.
Je pense c'est un bon conseil. Tu vois, on en parlait avec Camille Perrotte, donc qui a gagné le meilleur pâtissier. Et elle, quand elle a créé sa boîte, bah, elle a fait ça sur, je sais même pas quel nom de site, jecreemaboite.fr ou je sais pas quoi. Et ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, quand il s'est posé la question de finir clore son exercice fiscal, mais elle s'était pas posé toutes ces questions de OK SAS, SARL, auto-entrepreneur, elle savait même pas à quelle TVA elle était imposée. Okay. Et donc bon, elle a très vite pris un expert comptable parce que elle s'est dit mais les chiffres, même si c'était sa vie d'avant, justement, elle en pouvait plus. Je sais que comment elle s'appelle, France L'Huillier, elle aussi, elle a pris un expert comptable quand elle a créé son entreprise de kinésiologie. Et je pense que c'est un vrai bon conseil. Après bon, il y a des gens qui sont experts, mais même si on a quelques notions de compta, c'est tellement compliqué que ça évolue tellement vite que ça vaut le coup d'investir. Là-dedans, quoi.
Bah, moi, la compta, à la base, c'est pas du tout mon truc. Donc, de toute façon, je me suis pas trop posé la question. Et après, bah, quand tu te lances et que c'est tout avec ton argent et que, voilà, bon, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Tu peux pas, bah, après, il y a le choix de se dire, tu peux déléguer plein de choses. C'est pareil, créer un site web, tu peux le faire, tu peux essayer de le bidouiller toi-même ou tu peux le déléguer. Bon, moi, je pouvais pas tout déléguer, création de logo, site, la compta, etc. Donc, moi, j'ai fait le choix de déléguer la compta parce que de toute façon, je me suis dit, je vais plutôt mettre l'accent sur prendre le bon statut au départ parce que changer de statut, c'est possible.
Ça coûte cher.
Ça a un coût aussi qui est parfois plus cher que le coût de l'expert comptable au départ. je pense d'ailleurs que c'est un peu
carrément
plus cher.
Ouais.
Après, ça dépend du comptable que tu prends aussi. Mais finalement, j'ai fait le choix d'investir un peu d'argent dans la compta parce que de toute façon, je serais incapable de faire le suivi derrière, de faire la TVA, de faire mes bilans tous les ans correctement. Et j'ai peur de faire des erreurs et c'est,
et
même,
que le
c'est
risque,
même pas volontaire. En fait, il y a le risque derrière d'avoir des rappels qui peuvent coûter cher alors que c'est une erreur qui n'est pas volontaire. Enfin, donc, j'ai préféré investir dans ça. Et du coup, ben, j'ai fait mon logo et mon site toute seule. Alors, c'est pas tout à fait en ligne encore à l'heure où on se parle, mais là, ça va partir en relecture et j'espère mettre mon site en ligne la semaine prochaine.
Bon, je mettrai le lien sur les sites. Sur
ouais.
Le
et du coup, je l'ai fait sur WordPress. J'avais eu quelques petits cours de notion de WordPress dans ma précédente formation en digital, mais plutôt pour faire un blog, mais bon, c'est pas très différent. Bon, après, il y a des thèmes qui sont tout faits. Tu charges des blogs, t'écris, tu charges des photos. Moi, je l'ai montré à une amie avant-hier. Elle me dit, ah, mais t'as fait tout ça toute seule, mais c'est énorme. Mais finalement, je lui dis, mais tu sais, si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi parce que c'est vraiment accessible. Bon, après, il y a plein de petites bidouilles au niveau des balises et du SEO où c'est un petit peu plus touchy. Mais là, j'ai un ami qui est adorable qui va me relire ça la semaine prochaine, dont c'est le métier. Donc, en fait, quand tu parles de tes projets, que tu fais tout toute seule, etc., en fait, tu as plein de gens qui ont envie de t'aider spontanément, qui te proposent ton aide. J'ai la maman d'un copain de mon fils qui me dit « Mais attends, tu sais, c'est mon métier. Si tu veux, je te recette ton site quand tu as fini. »
Génial. Recéter un site, ça veut dire le relire et vérifier tout. Pour ceux qui ne sont pas dans l'univers du digital.
Bah, c'est vérifier, ouais, au niveau de, bah, elle fait aussi du SEO, donc, donc tout ce qui est balises, etc., elle peut rentrer dans le code pour vérifier si les balises
bloqué.
Sont les titres, les balises alt d'image, etc., sont bien. Elle peut vérifier tout ce qui est maillage interne, enfin, les liens, si ça fonctionne, si au niveau de l'expérience utilisateur, c'est fluide, etc. Bon, après, je pense pas faire trop de fautes d'orthographe parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Donc mais bon, quand on est fatigué,
on est
toujours la même
coquille.
Quand on lit 15 fois la même page, j'en vois toujours, j'en trouve toujours une petite. Mais bon, c'est aussi important de se faire relire par les autres. Donc j'en suis au point où je vais bientôt tout faire relire et vérifier au niveau lien interne, balise, etc. Si tout est OK. Et puis bon, faut que je l'héberge correctement et que je le mette en ligne après, quoi. Voilà, j'en suis là.
Génial. Donc là, du coup, ton site sort la semaine prochaine.
J'espère, oui.
Ouais, si tout va bien.
Il est quasiment prêt là.
Ouais. Alors dans quelques jours, on va quelques jours avec un S.
Voilà.
ta certif, donc là, tu attends la fin d'études de ton cas et tu as créé ton entreprise. Donc, il s'appelle comment ton entreprise ?
Mon entreprise, elle s'appelle 15h13.
Pourquoi ?
Alors, je me doutais que tu allais me demander pourquoi, parce que c'est pas courant. Alors, je sais pas si je le dis maintenant ou si je laisse un peu de suspense pour quand je sortirai le site et parce que bah, je l'explique. En fait, j'ai peut-être gardé un peu de suspense quand même, mais je voulais. Alors, ça fait longtemps que j'ai choisi le nom. Au moment où j'ai pris ma décision de tout plaquer, je commençais déjà à réfléchir au nom. Parce que je pense que j'avais besoin que ce soit un peu concret dans ma tête. Et j'ai beaucoup cherché, tout le monde s'appelle studio, atelier ou maison, quelque chose, ou juste par son nom et son prénom. Et je voulais quelque chose d'un peu différent. Je voulais pas faire de jeu de mots sur les mètres carrés, sur plein de choses. Et finalement, j'ai cherché quelque chose qui soit beaucoup plus personnel par rapport à mon histoire, au fait que ce soit une reconversion, un changement de vie. Et du coup, je suis allée puiser dans mon histoire perso pour trouver quelque chose qui était vraiment qui me parlait bien à ce niveau-là, au niveau changement de vie, reconversion, parce qu'il y a plein de gens finalement qui se reconvertissent dans ce secteur-là et moi je l'assume complètement. Et comme on disait tout à l'heure, c'est aussi une force d'avoir eu une autre vie avant, je pense. Donc du coup c'est un nom qui est très très personnel en fait par rapport à cette histoire là voilà.
Bon, donc, alors du coup un peu suspect. Le site URL ça sera 15h13.fr ou
ouais 15 ouais. Le 15 et 13 en chiffres, donc 15h13.fr, ce sera
15h13 ou
15h13.fr 13.fr. Donc ça c'est déposé et ce sera opérationnel, j'espère, la semaine prochaine.
Super. Et tu as acheté, du coup, le nom aussi à l'INPI ?
Pas encore. Bon, ça, c'est une question que je me posais, parce que c'est encore un petit investissement en plus. Mais le fait que ce soit pas mon nom, ou atelier, studio, Émilie, Martinet, etc., je me dis peut-être qu'il faudrait que je le fasse quand même.
Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. J'ai un avis. J'ai l'avis qu'on m'avait donné à l'époque, à savoir le premier truc que tu fais, c'est t'achètes ton nom et t'achètes le nom de domaine et t'achètes le nom parce que si quelqu'un demain crée une boîte avec ce nom-là, ça veut dire que tu dois changer de nom de boîte.
Ouais, c'est clair.
C'est un peu chiant.
Oui, c'est sûr. Donc c'est vrai que je m'étais pas mal posé la question et bon, c'était aussi le nom de domaine. Je l'ai acheté après avoir créé ma boîte parce que j'attendais d'avoir mon compte bancaire pro et ma carte bancaire pro pour acheter en ligne. Comme c'est des choses avec des récurrences et des abonnements, pour éviter de devoir mettre à jour tous les trucs parce que après on est pris tellement dans le quotidien qu'on n'y pense pas. Donc je voulais aussi tout de suite acheter ces choses-là en récurrence avec mon compte pro. Donc il y a eu quelques jours où je me suis dit
j'ai acheté mais en même temps ma boîte je l'ai créée en novembre et l'idée du projet je l'ai eu un an avant et même tu vois le nom je l'ai acheté à l'INPI, je l'ai acheté avec mes sous à moi et pas ceux de l'entreprise parce que alors il y a une personne qui m'en avait parlé, on en avait parlé lors d'une interview et qui avait dit, ça dépend un peu des cas, mais mon comptable m'avait dit, Charlotte, quand tu achètes le nom de ta marque, tu l'achètes toi-même parce que demain, tu revends ta boîte ou quoi que ce soit, tu peux…
Ça t'appartient toujours
à toi,
en fait. Ça t'appartient
à toi et ça appartient pas à la boîte. Et alors après, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais quand tu es enlevé de fonds ou quoi que ce soit, parfois, on t'impose de revendre le nom, enfin que le nom appartienne à l'entreprise. Mais demain, tu t'associes, tu seras bien contente que le nom il t'appartienne à toi, il appartienne pas à la boîte. Mm-mm. Après, c'est un billet parce que de mémoire.
Oui, parce que j'allais dire, j'avais posé la question, je pense que ça intéresse un peu pas la
boîte. Ouais, le prix. Alors de mémoire, je crois que
centaines d'euros, non ?
Ouais, ça date d'il y a un an et demi et je vais vous faire un aveu, chers auditeurs, c'est qu'en fait les chiffres et moi, on n'est pas du tout copains. Donc à l'époque,
moi, j'avais en tête 400-500 euros.
Ouais, en gros, 300... c'est de mémoire, c'est quand tu déposes, c'est deux classes. En fait, en gros, tu as des classes qui sont des.
Enfin
des
non, tu déposes le nombre de classes que tu veux en fonction de où
ouais,
tu veux.
Ouais, mais au début, en gros, enfin le premier prix entre guillemets, je crois que c'est deux classes. Tu dis, j'achète mon nom de domaine dans deux classes, une classe correspondant à une case, à une type de catégorie. Donc c'est, je crois que c'est 400 € le truc de base en fait.
Ouais.
Et ensuite,
tu peux évidemment rajouter le nombre de classes. Donc ça te fait monter. Tu peux monter. Ouais. T'as pas
moi,
limite
je crois
après,
que
mais...
c'est ça. C'est limité. Moi, je crois que j'avais. Moi, je crois que ça m'a coûté 600 € et quelques. Donc, clairement, ça fait un petit peu mal quand tu le fais de ta poche et que tu es au chômage et compagnie. Mais bon, c'est un investissement qui est… Enfin, tout le monde m'a dit ça, c'est vraiment… Et puis, c'est mes cours aussi à l'époque d'école de commerce où on m'avait dit, ouais, tu crées une boîte, tu déposes ton nom. Et puis même, regarde Inès de la Fressange, elle, c'était son nom et qui s'est fait, qui ne pouvait plus avoir utilisé son nom. Enfin, c'était un cas marketing, hein, ce truc-là.
Mmh. Ouais. Donc, c'est vrai que j'avais été posé la question l'année dernière et ça m'est un peu sorti de la tête avec tout ce que j'ai géré depuis.
Ouais.
Mais c'est peut-être, oui, une chose, je demanderai à mon expert comptable un conseil éventuellement, mais, oui, je pense.
T'es contente de cette petite interview qui va te coûter 400 balles?
Ouais, je te remercie, je suis ravie.
Et donc là, du coup, en termes d'activité du business lié à ta structure, comment t'appréhendes les choses? Où est-ce que tu en es?
Pour l'instant, je suis tellement la tête dans le guidon à avoir créé la société. J'ai fait mon site web toute seule de A à Z. Le logo, bon, j'ai fait un truc très simple parce que voilà, je suis pas graphiste, mais bon, il y a des outils sur internet gratuits pour faire des
T'as utilisé quoi?
J'ai utilisé Canva.
Ouais.
Pour l'instant, voilà, je fais très simple. Après, bon, je bidouille un petit peu sur Photoshop, donc voilà. Mais bon, après, je suis vraiment pas du tout graphiste. L'idée, c'était déjà d'avoir un nom, et puis de pouvoir raconter quelque chose autour. Et désolée, j'ai maintenu le suspense. mais du coup, oui, c'était. Enfin, j'ai voulu me débrouiller sur ces choses-là toute seule au départ parce que je me dis que c'est des choses que je peux faire évoluer par la suite. Si j'ai les moyens d'investir un petit peu là-dedans, même si c'est un moyen d'arranger les choses sans que ce soit trop cher non plus, mais bon, au départ, faut quand même faire un peu des choix. Surtout que tu viens de me faire dépenser bientôt 400 €.
Ouais.
Donc clairement, je ne ferai pas faire mon logo tout de suite par quelqu'un de professionnel. Mais voilà, après, au niveau du développement du business, là, je me suis fixée pour objectif d'avoir tout au mois de juin de près, mon site. Mon logo, c'est fait, mais donc, du coup, mes cartes de visite. Enfin, faut que j'ai pas créé mon email pro encore, mais donc, tout est prêt. Mais il faut que j'enchaîne.
Il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire.
Et mes cartes de visite, en gros, elles sont prêtes, mais tant que j'ai pas mon site en ligne et mon email pro qui soit opérationnel, je peux pas lancer l'impression au cas où il y a un petit souci là-dessus que je dois tout refaire. Mais a priori, je vais rejoindre une association d'entrepreneurs locales dans ma commune où je connais donc déjà 3 personnes qui en font partie. Et du coup, ils ont un événement le 1er juillet. Donc, il y a une personne qui m'en a parlé, qui potentiellement, voilà, je pourrais y participer. Donc, ce serait bien que je sois prête avec mes cartes de visite et mon site opérationnel pour cette date-là. Donc, ça me fait un petit objectif déjà à court terme de me dire, il faut au moins que je sois prête pour ça. Et après, effectivement, oui, ce sera toute la démarche de prospection. Alors, sachant que j'ai quand même déjà des gens dans mon entourage qui m'ont demandé de travailler pour eux. Donc, et j'ai même pas le temps d'aller les voir et m'en occuper pour l'instant parce que je suis incapable de faire des devis, etc. Donc ils sont compréhensifs, hein, c'est des gens qui sont assez proches, donc du coup ils comprennent que j'ai besoin de lancer tout ça avant. Mais déjà j'ai quelques touches là tout de suite quand je suis prête. Et puis après bah ce sera la démarche d'aller taper aux portes, etc. Donc de commencer peut-être à faire un peu de payant sur Insta ou déjà juste de communiquer sur le lancement. Sur le nom du site, le nom de la boîte, et puis de dire ça y est, je suis opérationnelle, et puis ensuite d'aller surtout en local, hein, parce que c'est
oui, là,
maintenant
c'est
je
côté,
fais du maintenant je fais du plutôt du B2C, même si je suis pas fermée au B2B, mais au départ voilà, je suis plutôt en local et en B2C, ce qui était complètement différent de ma démarche de prospection d'avant, qui était grand compte B2B. donc faut que je me plug comme ça. Mais voilà, il y aura tout à faire. Donc.
Et du coup sur Instagram, là ton compte, il était avec ton nom, tu vas le renommer.
Ouais, j'ai mon compte Instagram, il est loin d'être perso, donc je mets que des,
oui,
que
c'est
des
pour choses ça, ouais.
de déco, tout ça. Donc je vais le rebaptiser en fait. Donc j'espère que les gens, je vais pas les perdre en route, mais bon, je leur expliquerai bien que c'est le même compte qui change de nom. Mais oui, je vais, enfin le nom d'utilisateur, je vais garder mon nom, mon prénom pour que voilà, on sache qui je suis. Ouais. Mais le compte en lui-même, le @, voilà, ce sera @15h13. Donc ça va changer dans pas très longtemps. C'est pareil, ça fait partie des objectifs du mois de juin.
Top. Et tu disais aussi que via Instagram, il y avait des personnes aussi qui t'avaient contacté à l'époque pour justement que tu les accompagnes. Ça débouchait sur quoi?
Ça fait partie aussi des leçons à tirer qui intéresseront. Je les ai vus et j'ai bossé comme je venais à peine de commencer ma formation depuis un mois. J'étais incapable de me lancer tout de suite, de faire des devis ou quoi que ce soit. Et puis c'est ce que je disais, c'est de faire payer les gens tout de suite. Sachant que je suis pas en activité, j'ai pas d'assurance, ça fait aussi partie de mes gros chantiers du moment, c'est l'assurance, parce que je veux pas faire signer des devis tant que j'ai pas une assurance correcte. Donc il y en a beaucoup qui bossent sans assurance, je pense, dans ce métier, mais moi je trouve que c'est pas bien. Donc là je suis vraiment aussi dans cette démarche là en ce moment. Et donc du coup j'ai commencé à bosser sans avoir fait signer quoi que ce soit. Donc je leur ai fait des plans, des 3D, alors qui étaient du niveau de mon niveau de l'époque. J'ai progressé depuis, mais on se projetait quand même très bien. Enfin c'était à l'échelle et on se projetait quand même très bien dans l'espace. Et j'ai eu un merci, mais juste un merci. Ok, merci quoi. Alors que j'ai quand même bossé beaucoup en plus de ma formation sur le projet. Et derrière, j'ai pas mal relancé. J'avais plus de nouvelles pendant plusieurs mois. Et au bout d'un moment, j'ai relancé une dernière fois en me disant, on verra bien. Et ils m'ont juste répondu que, bon, ils avaient des travaux dans la copro, donc ils reportaient le projet. Mais j'ai jamais su quelle version ils préféraient. J'ai pas eu beaucoup de retours, sachant que je l'avais montré à, j'avais montré mes deux versions aux copines de l'école. Qui avait trouvé ça top et donc j'étais un peu déçue de pas avoir de retour plus que juste un simple ok super.
Parce que du coup merci, tu leur as facturé quelque chose ou pas?
Non j'ai pas pu hein,
mais parce que en fait moi c'est un truc que j'avais appris via mon papa, donc qui est architecte d'intérieur et décorateur, et puis aussi pour en avoir parlé avec une personne là qui fait de l'architecture mais c'est plutôt du paysagisme à Marseille. Mm-hmm. Et en fait le truc c'est que t'as plein de gens. Tu leur fais les planches et puis bah ils les récupèrent et puis
ils vont voir un artisan
et voilà et donc ce qu'on, bon alors ça m'a jamais servi parce que c'est pas mon, ça n'a jamais été finalement mon métier, mais c'est que tout le monde, enfin en tout cas les gens avec qui j'avais bossé à l'époque et puis ce que me disait papa, c'est que eux ce qu'ils faisaient c'est que il faisait payer le projet. Donc c'est-à-dire OK, je vais bosser pour vous, je vais vous faire un projet, je vais vous faire payer je sais pas moi 200, 300 euros, enfin par exemple, 400 euros le prix de ta marque à l'INPI. Et par contre, si tu signes s'il signe avec toi, tu récupères, en gros, tu dis, bah voilà, les 400 euros, je vous les facture pas, je les intègre au projet global. Mais ce qui fait que du coup, t'as pas bossé pour rien, t'as pas passé plusieurs heures. Enfin, autant tu fais juste un devis et compagnie, bah, mais oui, quand t'as un projet aussi. Plus,
Non, mais ça, je le sais et clairement, je le ferai plus. Mais j'avais conscience que le fait de leur donner des choses sans avoir rien signé ou quoi que ce soit, c'était risqué. Mais en même temps, j'avais qu'un mois de formation. Je m'estimais pas du tout légitime encore. Oui, de toute façon, on apprend. Et puis ça me faisait un exercice aussi. J'avais conscience que c'était le risque que je prenais, mais j'ai voulu le faire quand même parce que c'était. Je trouvais que c'était un bon entraînement aussi de se dire de travailler sur un cas concret où t'as les murs qui sont pas droits, parce que quand t'es à l'école au début on te donne des trucs un peu faciles, t'as une pièce qui est bien carrée avec des angles à 90 degrés, c'est facile de faire une cuisine quand les murs sont à 90 degrés pile poil, mais là c'était pas le cas, donc du coup je trouvais ça super intéressant de dire je vais prendre des codes dans un appartement qui est habité, donc où il y a plein de choses partout et ton laser c'est pratique pour prendre des cotes, mais ils butent sur tout ce qu'il y a sur le plan de travail et tu n'as pas les vraies dimensions, donc tu dois vraiment composer avec les contraintes de la vraie vie, en fait. Donc je trouvais ça super, super de faire
ouais, de quand même. Au truc, ouais.
Donc j'ai pris le risque, voilà, et ça arrivera à plein de gens. Et je savais que ça allait vraiment risquer de m'arriver, mais bon, voilà, et puis c'est pas dramatique en soi, mais. C'est juste un petit peu décevant de pas avoir de retour plus positif que ça et d'avoir eu ce silence derrière, mais sinon ouais. Je regrette pas du tout de l'avoir fait, ça a été formateur de toute façon.
Et c'est quoi tes nouvelles peurs aujourd'hui?
Il y a la nouvelle peur forcément où tu te dis est-ce que tu vas vraiment trouver des clients suffisamment qui seront prêts à payer le prix que tu vas demander pour faire les dossiers de faisabilité, le suivi de chantier chez eux, etc. Et suffisamment pour pouvoir en vivre et avoir une société qui est dans le positif et que tu puisses te payer au bout des quelques mois qui me restent de chômage et au bout d'un moment où il va falloir que je compense un minimal chômage et que je fasse si possible un peu plus. Donc c'est cette peur là de se dire comment ça va démarrer, est-ce que je vais réussir à trouver des clients facilement parce que c'est quand même assez concurrentiel, comment je peux me démarquer sachant que pour l'instant j'ai fait mon site moi-même, mes photos moi-même, donc j'ai pas pris de photographe, donc j'ai pas les belles photos que d'autres peuvent avoir sur leur site parce qu'ils ont pris des pros, parce qu'ils ont déjà plus de projets à montrer, etc. Parce que moi, ce que j'ai à montrer, j'ai pas forcément anticipé que j'allais faire un site dessus un jour. Et du coup, j'ai des photos qui sont pas professionnelles. Donc, est-ce que je vais être crédible? Voilà, c'est ces peurs-là. Mais à part ça, je me laisse porter par les étapes. Et je disais la dernière fois, donc il y a 7 mois, que j'aurais certainement très peur quand j'aurais fini l'école, fini le stage et que je serais dans le grand bain sans mes brassards. Et là, j'y suis. Et ben finalement, on parlait de natation juste avant, c'est marrant. Mais finalement, je nage bien. Je fais mes petites longueurs petit à petit et une après l'autre. Et la boîte est créée, le site est quasiment en ligne. J'ai mon nom, j'ai mon logo, j'ai mes cartes qui vont arriver. Je suis en train de m'assurer. Tout ça, c'est des étapes je sais que c'est des étapes que je dois faire, donc je les fais petit à petit. Et puis et bizarrement, c'est étrange pour moi, mais je suis pas tellement stressée en fait. Donc ça me conforte bien dans le fait que je suis ravie d'être à cette nouvelle place là et comme quoi j'ai une nature très anxieuse, très stressée, etc. Et là j'ai du mal à me reconnaître parce que j'ai quand même toujours la tête occupée à ça, mais je suis moins anxieuse et stressée que d'habitude en fait. Je prends beaucoup plus de plaisir. Je suis ravie d'ouvrir mon ordinateur le matin. J'ai du mal à le fermer le soir. C'est top quoi.
Génial. T'es à ta place.
Ouais, je pense. L'avenir me dira avec les premiers clients et les premiers retours. Ce sera ça aussi qui sera révélateur, c'est d'avoir les premiers retours des gens sur les premiers projets, les vrais projets que je vais sortir en tant que 15h13.
C'est quoi tes grandes réjouissances du moment?
Ce dont on vient de parler, je pense que c'est une belle réjouissance parce que c'est pas évident j'ai l'impression d'aller un peu contre ma nature anxieuse, etc. Là, je me rends compte que je suis beaucoup plus zen qu'avant. Donc c'est une grande réjouissance pour moi parce que j'ai toujours été super stressée, surtout en me disant voilà, est-ce que je vais réussir, là j'ai toujours ces questions là, mais c'est une attitude, en fait, le fait d'être beaucoup plus zen qu'avant, c'est une grande réjouissance pour moi, et d'être arrivée jusque là, parce que c'est vrai que j'ai une amie avec qui je discutais la semaine dernière qui me disait « Mais tu te rends compte l'année dernière où tu étais ?» Parce que je lui disais « Ça avance, mais ça avance pas assez vite à mon goût. » Elle me dit « Mais attends, tu peux pas aller plus vite. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus vite? Regarde, il y a un an où tu étais, j'étais dans mon chantier, à pas savoir si j'allais faire ma formation, et finalement en un an j'ai fini mon chantier, j'ai loué super facilement l'appart, j'ai fait toute ma formation, j'ai trouvé mon stage facilement, j'ai fini mon stage, j'ai créé ma société, enfin je suis prête, et en un an c'est énorme d'avoir fait tout ce chemin là et c'est vrai que ça m'a fait du bien de discuter avec elle, parce que elle m'a fait prendre conscience que oui, je voudrais toujours aller plus vite, mais ça va déjà vite quand même.
Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que d'avoir un miroir, ça fait toujours du bien de se dire ce que nous, quand on vit les choses, on ne voit pas.
On prend pas de recul. Ouais.
Et puis on se rend pas compte. On se dit mais oui, mais c'est moi, donc c'est normal. Mais en fait, c'est pas forcément. Par rapport au regard des autres, pour le coup, qui peut faire du bien, de se dire, bah oui, non, en fait, c'est déjà extraordinaire.
Ouais.
Et c'est quoi, ça a été quoi tes plus grandes difficultés, du coup, pendant ces 7 derniers mois?
Il fallait tenir le rythme de la formation, qui est quand même assez soutenu. La dernière semaine où on a passé l'examen, où on a tous craqué à un moment donné dans la semaine, parce qu'on était épuisés et qu'on a bossé jour et nuit sur notre étude de cas pour valider notre formation. Mais à part ça, ça avait beau être super intense, j'aimais tellement ce que je faisais, parce que la formation en déco, je disais que c'était très intense, qu'il y avait du boulot à côté, etc. Mais c'était rien à côté de la spécialisation archi. Avec du recul, tu te rends compte que c'était encore plus intense les 3 mois suivants. Mais à part le fait de tenir ce rythme-là, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Enfin, je m'éclate, en fait, donc tout va bien.
Génial. Et comment ton entourage, il a vécu tout ça pendant les 7 derniers mois?
Bien, en fait, je pense que le fait de voir que j'étais contente de ce que je faisais, que j'étais contente de me lever tous les jours pour y aller, pour avancer. Alors après il y a eu le Covid, les confinements, etc., où on pouvait pas trop sortir, etc., donc j'ai pas eu trop de vie sociale, j'ai un peu coupé. J'ai eu des contacts avec des gens qui sont très très proches, des amis très proches, mais j'ai beaucoup coupé, je me suis mis un peu dans ma bulle, donc là c'est vrai que j'ai envie maintenant de rebouger, de me réouvrir un peu et de dire bah, coucou, ça y est, je suis sortie de ma grotte. Parce que d'un côté, ça avait du bon de pas pouvoir sortir, parce que je pense que j'aurais été encore plus fatiguée. Mais d'un autre côté, ça va faire du bien de revoir un peu des gens, de reprendre des contacts, etc. De sortir de ma caverne là, et de me dire ouh, ça y est, il y a du soleil, je vais revoir un peu des gens, je vais reprendre une vie sociale, et puis je vais parler de mon projet, et puis et je pense qu'il y a des choses qui se feront naturellement parce que je vais me réouvrir aux autres. Enfin, je me suis un peu fermée sur ma vie sociale, mais bon, ça c'est un peu tout le monde, mais je pense que la formation, l'intensité de la formation, ça a pas aidé non plus. Ça nous a manqué d'ailleurs dans la promo de pas pouvoir faire des afters après les cours ensemble, parce qu'il y avait une super entente, Et ça, c'était très fort. C'est que on était très soudés et on s'entraide beaucoup encore là. On a gardé notre groupe WhatsApp et là, la semaine prochaine, on va se voir, on va se revoir pour avec quelques-uns pour parler un petit peu de ce qui s'est passé sur les dernières semaines, les derniers mois pour chacun.
Sympa. Donc c'est cool. Bah ouais, c'est génial. Et puis du coup, vous partagez vraiment les mêmes préoccupations, donc ça.
Ouais. Bah c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que finalement on va être concurrents parce que on fera la même chose, mais c'est pas grave parce que il y a beaucoup d'entraide, on est hyper solidaires et c'est ce que je disais, c'est qu'on a tous notre zone géo, notre réseau et que c'est pas parce qu'on est même pas loin qu'on fait la même chose qu'on sera en concurrence sur des projets et puis si ça arrive, bah c'est pas grave et tant mieux et c'est hyper sain, je trouve. On s'entraide beaucoup. Il y en a qui maîtrisent plus ou moins tel logiciel. Il y en a qui ont, voilà, des. Enfin, après, je suis peut-être plus avancée que certains sur la partie administrative et création de structures. Donc, bah, quand j'ai des infos sur l'assurance, les statuts, etc., bah, je les partage avec les autres. Et puis, les autres, quand ils ont une bonne adresse de déco sur les matériaux, sur des tissus, des papiers peints, etc., bah, ils nous partagent l'adresse. Donc, on s'entraide beaucoup et on se donne beaucoup de tuyaux comme ça.
Génial. Et où est-ce que tu en es par rapport à ton équilibre vie perso et vie pro?
Bah du coup là, je suis à la maison tous les jours. Maintenant, je suis en télétravail parce que je suis en création, donc je peux retourner. Mon fils qui est au collège, qui a un emploi du temps un peu en gruyère, du coup, je le vois un peu plus. Je le vois quand il a pas cours, je le vois à la maison, donc je passe un peu plus de temps avec lui, même si bon, je travaille et que voilà, c'est un pré-ado, donc il est un peu dans son monde. Et le plus petit qui est en CE1, je peux aller le chercher un peu plus tôt le soir à l'école, donc je vais le chercher un peu plus tôt, mais je me remets à bosser après. Mais voilà, on fait le chemin avec ses copains. Il est plutôt à la maison le soir, donc les deux frères se voient un peu plus le soir, donc je les vois un petit peu plus, quoi, donc c'est cool. Et puis bon, bah du coup je suis moins prise par les temps de trajet, etc. aussi, donc je gère plus mon temps facilement. Bon, après c'est vrai que du coup quand t'es toi à ton compte, etc., tu as tendance un peu à bosser le week-end ou le soir. Bon, après le soir j'essaye de couper quand même, mais quand il y a des jours où j'ai envie d'avancer vraiment sur un truc, j'avance, quoi. Et puis on peut se gérer un peu plus son temps, voilà, faire des pauses dans la journée. Voilà, hier midi j'ai fait un déjeuner en terrasse avec mes enfants. C'est un truc que j'ai pas fait, que j'ai quasiment jamais fait en fait, le mercredi midi, d'aller faire une terrasse avec mes enfants. Donc c'était top.
Ouais, c'est top. C'est quoi pour toi la réussite?
Alors c'est vrai que la dernière fois tu m'avais posé cette question et que j'avais dit que c'était vraiment de se sentir. Alors j'ai pris la question.
C'est comme ça évolue, c'est pro. Pour ça que je la repose.
Oui, parce que je me rends compte en écoutant les autres invités qu'ils le prennent pas forcément comme moi je l'avais pris la première fois, parce que j'avais pris la question comme réussite professionnelle, donc où je parlais que du pro, en disant qu'il fallait que qu'on se sente bien à sa place dans ce qu'on fait, qu'on prenne plaisir à travailler tous les jours et qu'on n'ait pas l'impression d'aller travailler en se levant le matin et en allumant son ordinateur. Donc ça, je le pense toujours et encore plus depuis tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Mais effectivement, c'est aussi d'avoir cet équilibre, de réussir à faire ça en ayant aussi cet équilibre perso à côté Après, tout le monde ne rêve pas d'avoir une famille et des enfants, etc. Moi, c'était aussi, je concevais pas ma vie sans enfants. Mes enfants, c'est aussi ma plus belle, c'est surtout ma plus belle réussite, mes deux plus belles réussites. Donc, je suis ravie d'avoir réussi à concilier tout ça et d'avoir pu le faire, en ayant l'accord et le soutien de mes proches, de mon conjoint, même de mes parents. Moi, je voyais. Il y a une nana dans mon groupe qui fait exactement la même reconversion que moi et qui elle n'était pas soutenue par sa famille c'est beaucoup plus compliqué en fait d'aller un peu à contre-courant de ses proches qui disent mais pourquoi tu fais cette connerie entre guillemets quoi, parce que pour eux c'était vraiment pas du tout une bonne idée de faire ça, mais Mais pourtant, je suis persuadée qu'elle va y arriver, hein, que c'est très bien, qu'elle a fait le bon choix et qu'elle va s'éclater et qu'elle est aussi faite pour ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand t'as le soutien de ton entourage. Donc la réussite, alors je sais pas si c'est de la réussite, mais c'est pas uniquement de réussir à vendre son projet à ses proches, parce que voilà, si tes proches sont bornés sur le truc et qu'ils veulent rien savoir, t'as beau bien vendre ton projet, ça va pas le faire. Mais bon, j'ai cette chance là, pardon.
Ça, c'est vrai, quand tu vois, c'est quelque chose dont on parle, enfin, dans chaque épisode, hein, sur le rôle de l'entourage. Et l'autre jour, je discutais avec une personne qui a suivi mon programme, Trouver sa mission de vie, écouter sa petite voix, et qui me disait que, elle n'est pas du tout soutenue, en fait, par son mari sur le fait de vouloir changer de vie et se reconvertir. Et qu'elle le vivait de façon très difficile, parce que clairement, c'est déjà une vraie aventure. Et si t'as pas le soutien de tes proches, ça met des bâtons dans les roues, là où quand tu te reconvertis, que tu as le soutien de tes proches, comme disait Aline des Authentiques, c'est le petit. De toute façon, c'est toi qui vas sauter, devoir sauter la falaise, d'une falaise à l'autre, mais le soutien de tes proches, c'est le petit moteur qui va te donner un peu plus d'énergie, quoi.
Bah, je pense, ouais, c'est clair. Je pense que les proches, en fait, ils ont peur pour nous.
Bien sûr.
Ceux qui nous suivent pas, c'est qu'ils ont, ils se disent, bah, t'as une situation, enfin, t'es confortable, t'es sur les rails, tu gagnes ta vie, t'as une famille, enfin, pour la plupart, c'est un peu stéréotype, mais c'est un peu cliché, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à te mettre en difficulté, à gagner moins d'argent, à peut-être, voilà, à claquer toutes tes économies dans un truc Après, pour moi, ça a été assez simple, parce que j'en parlais depuis longtemps, pas depuis que j'étais petite, parce que justement, si je l'avais dit quand j'étais petite, j'aurais peut-être fait tout de suite, mais peut-être que ça aurait pas marché tout de suite, en fait, je sais pas. Et du coup, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui se reconvertissent, mais après avoir fait un bilan de compétences, parce que ils savent pas du tout quoi. Moi, j'ai pas eu besoin de faire ce bilan de compétences, de me poser toutes ces questions, parce que, enfin, c'était ça ou rien d'autre, quoi, de toute façon. Donc,
ouais, c'était une évidence pour
moi. C'était clair. C'était clair que c'était ça ou rien d'autre. Mais il y en a pour qui c'est pas le cas. Donc, mais la personne dont je parlais, c'était aussi le cas. Enfin, c'était ça, quoi. Donc c'est pas juste, entre guillemets, qu'elle ait pas le soutien de ses proches. Et peut-être qu'ils ont peur pour elle financièrement. Enfin, c'est aussi ça qui fait assez peur. Peut-être au niveau des conjoints qui soutiennent pas, c'est peut-être aussi la peur financière de se dire, ben voilà, on a des crédits, on doit payer un prêt immobilier. Il y a des enfants, ou ça dépend l'âge des enfants, mais s'il y a des études qui arrivent après, etc. Enfin, faut anticiper plein de choses.
C'est sûr qu'il y a des moments de vie qui sont plus ou moins adéquats. Après, entre se mettre dans le mur parce qu'en fait t'es pas à ta place et prendre un petit peu de risque.
Ouais, c'est trouver. C'est ce que je disais l'autre fois, c'est qu'il faut pas se mettre en difficulté financière, parce que le fait de se mettre en grosse difficulté financière, de pas pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois, etc., forcément, ça aura un impact sur la vie familiale, la vie de couple, parce que les galères d'argent, je pense que c'est pas facile à gérer sur le long terme, et quand on change de vie et qu'on n'a pas anticipé ça, ça peut durer un certain temps. Donc, c'est clair qu'il faut écouter sa petite voix, qu'il faut pas se mettre en difficulté aussi on a tous beaucoup fait un burn-out, et le burn-out, ça peut se manifester de plein de façons différentes, et ça peut être très très grave, et ça peut aboutir à des situations dramatiques. Donc qu'est-ce qu'il faut choisir entre gagner un peu moins d'argent pendant un certain temps, ou se mettre en danger physiquement, jusqu'à mettre sa vie en danger aussi, quoi. Donc et mettre sa vie en danger, ça peut aussi gâcher la vie de ses proches. Donc c'est, enfin, là je vais dans des cas assez extrêmes, mais il y en a. Donc d'être déprimé toute sa vie parce qu'on n'est vraiment pas à sa place, c'est pas bon non plus, c'est pas sain non plus pour l'entourage. Même s'il y a l'argent qui rentre, ben si t'es malheureux toute ta vie, c'est pas ça non plus, quoi.
C'est C'est clair.
Donc, il faut poser le pour et le contre. Et ça, c'est très personnel. C'est vraiment le choix de chacun par rapport à sa situation. Mais
voilà. Et puis, c'est choisir. En fait, tu vois, moi, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis souvent. C'est qu'en fait, peut-être qu'à un moment, tu sens que ta petite voix, elle te dit, ce job-là, il n'est pas fait pour toi, mais c'est pas le moment non plus de changer parce que, tu vois, Marion, que je suis en chemin, qui, à 60 ans, s'est reconvertie pour être vitrailliste. Et Marion, elle dit, il y a eu un moment dans sa vie où elle avait envie de changer de métier, mais elle venait de divorcer, elle avait à sa charge ses deux enfants qui étaient petits, c'était pas le moment, mais c'était son choix. Et en fait, à partir du moment où tu vis la chose comme un choix et non pas comme un renoncement, ça change tout, parce que du coup, t'as pas du tout la même façon de voir les choses.
Ouais, ouais. Bah après, c'est un feeling. Moi, je l'ai senti à ce moment-là. Que de toute façon, j'arriverais à rien faire d'autre tant que j'étais pas allée au bout de cette idée-là. C'était ce qui s'est passé pour moi il y a un an et demi maintenant. Et je me suis dit bon bah j'ai quand même vérifié avec mon mari s'il avait pas l'intention de bouger de sa boîte dans les 3 ans à venir parce que bon il m'a dit que non donc du coup il m'a suivi et puis les enfants sont suffisamment jeunes encore, c'est plus des bébés donc ils sont quand même suffisamment grands pour se gérer un minimum et ils sont suffisamment jeunes pour que j'ai pas encore les études sup à payer donc c'était un timing pas mal. Mais c'est vrai que il y a des périodes où tu as envie de le faire, mais au fond de toi, tu n'y vas pas parce que tu sais que il y a un truc qui te freine. Mais après, quand les seuls freins que tu te mets, c'est juste des excuses bidons, c'est juste de la procrastination. Après, tu dis, je vais le faire, mais demain. Mais en fait, t'as plus de vraies excuses pour pas le faire. Donc, c'est quand on est là qu'il faut y aller. Et c'est important d'en parler à des gens proches. Alors, t'es pas obligé de le crier sur tous les toits parce que t'as peut-être envie d'être discrète sur ce projet-là. Mais c'est bien d'en parler à des gens qui nous connaissent bien, des gens extérieurs, bien, un peu moins bien, des gens dont la vie pourrait nous éclairer aussi et nous conforter ou pas dans le choix. Je trouve, bon, j'en avais parlé d'abord à mon entourage le plus proche évidemment mais même des collègues à qui voilà je faisais confiance et qui n'allaient pas forcément le répéter à mon employeur tout de suite parce que c'est pas évident de commencer à parler de ce type de projet mais qui quand on te dit bah oui mais bien sûr mais pourquoi tu fais pas ça évidemment t'en parles tout le temps on sent que c'est ton truc ça aide beaucoup de te rendre compte qu'en fait pour les autres c'est évident parce que t'en as pas forcément conscience. Moi j'avais pas forcément conscience que ça transpirait à ce point-là quoi. Donc et le fait de commencer un peu à évoquer le sujet mais tout le monde me disait mais oui mais évidemment mais bien sûr fais-le. Pourquoi tu le ferais pas et qu'est-ce qui t'empêche et ça aide beaucoup.
Clairement. D'ailleurs, c'est un des conseils que je donne dans mon livre, là, Et si je changeais de métier, où la constitution d'un comité de soutien pour justement te soutenir dans les moments où bah, déjà te permettre de dire ouais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, se conforter ou pas. Après, c'est pas parce que les gens te disent que c'est pas une bonne idée si tu crois vraiment dur comme fer au fond de toi que c'est une bonne idée. Faut pas non plus forcément écouter, mais en tout cas, ça permet de confronter son avis et puis aussi après le fait d'avoir un comité de soutien qui t'aide dans les moments plus ou moins et ce que tu disais c'est que le comité de soutien il est aussi sur ta pote qui va te faire la recette de son site web, ton pote qui va t'aider sur le SEO, enfin c'est ça peut être aussi un comité de soutien avec des compétences que tu n'as pas et qui peuvent apporter beaucoup à ton projet.
Ouais. Mais au-delà de ça, parce que bon après moi j'aime pas demander des choses comme ça, gratuitement. Enfin, j'ai rien demandé en fait. Ils m'ont proposé, mais quand je propose de me faire un devis pour que je paye, bon après comme c'est des potes, ils me disent mais non, je vais pas te faire payer. Mais au bout d'un moment, moi je vais pas. C'est ce que je dis. Mais tout travail mérite salaire. C'est qu'au bout d'un moment, c'est pareil. Moi je vais pas refaire les apparts de tous mes potes gratuitement parce que je vais jamais vivre de mon nouveau métier. Donc au bout d'un moment.
Si tes potes écoutent, il y a un petit message qui va passer.
Non, mais c'est ce mais que C'est toujours délicat de travailler avec des gens trop proches parce que tu te dis oui c'est normal que je te paye, tu bosses pour moi, mais ça marche dans les deux sens, hein. C'est que il y a pas de raison qu'ils me fassent pas payer si me débloquent un truc en 5-10 minutes, bon ok, je lui paye un verre, je l'invite au resto, c'est réglé. Mais s'il met plusieurs heures à bosser sur mes trucs et que pendant ce temps-là il bosse pas avec ses clients, je trouve normal de devoir payer la prestation, c'est logique. Il a un manque à gagner sinon. Mais ça marche dans les deux sens. Moi, je suis toujours prête à rendre service, donc j'ai tendance à dire ok pour aider les gens. Mais c'est vrai que après, au bout d'un moment, si je fais toujours tout comme ça pour rendre service, c'est des heures que je passe pas sur prospecter, sur rentrer du chiffre d'affaires, travailler sur des projets que je vais facturer. Donc ce sera juste mathématique à la fin, quoi. Donc il faut juste que oui, c'est pour moi et c'est pour les autres aussi. Je trouve que c'est normal, c'est dans les deux sens.
Ouais. Est-ce que tu te rappelles du conseil que tu avais donné?
Je crois que j'ai un peu reparlé de ça il y a quelques minutes. C'est de plus qu'à partir du moment où on a juste des fausses excuses et qu'on a pris sa décision, qu'il faut oser se lancer, c'est ça?
Ça avait dit prendre le temps de se poser des questions, essayer de prendre soin de soi.
Ouais, alors ça c'était au tout début et je crois qu'après une fois que j'avais dit qu'une fois
t'avais réenchaîné sur
qu'il fallait plus trouver d'excuses, en fait c'est un peu ce que je disais, à part les grosses barrières qui font que financièrement ou techniquement c'est pas possible, mais tout ce qui est fausses excuses, il faut les enlever et se dire bon bah voilà, c'est que des fausses excuses, maintenant j'y vais, quoi.
Et est-ce que tu as un nouveau conseil à donner?
Je pense que c'est un peu ce qu'on a évoqué avant, c'est le comité de soutien. Je pense que c'est un très bon conseil de s'entourer de quelques personnes qui sont très bienveillantes par rapport au projet et qui nous soutiennent dans les moments où ça marche bien et dans les moments un peu plus difficiles aussi, et que ce soit pas forcément des personnes du quotidien avec qui tu vis tous les jours, mais des gens que tu vois peut-être un peu moins régulièrement et qui peuvent avoir plus de recul, en fait, par rapport à, parce que les gens qui nous suivent au quotidien, ils voient l'avancée tous les jours, très progressive. C'est un peu comme tu vois tes enfants grandir tous les jours, tu les vois pas grandir parce que tu les vois tous les jours. Et par contre, quand il y a des gens qui ont pas vu tes enfants pendant des mois, ils disent, punaise, mais qu'est-ce qu'il a grandi? Et en fait, c'est exactement pareil. C'est de se dire d'avoir des gens bienveillants dans ton entourage que tu peux voir sur des périodes un peu plus espacé, et quand toi des doutes, en fait c'est ces gens-là qui vont te dire mais attends, t'as vu, ça fait 3 mois qu'on s'est pas parlé, t'as vu tout ce que t'as fait en 3 mois, et en fait ça te remet en place en disant ça te remet dans le positif, en fait, et ça te booste pour te dire bah oui, en fait oui, là j'ai un petit moment de creux, mais finalement j'ai super bien avancé, et c'est ces gens-là, en fait c'est ce comité-là qui t'aide à prendre du recul et à te dire si en fait t'avances quand même, quoi, ça te rebooste en période de doute.
Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui?
Alors je l'ai pas préparé celle-là. je vois pas. Peut-être quand on en parlant ça me viendra, mais non, là je vois pas comme ça. Désolée.
À quel moment dans les 7 derniers mois tu t'es dit pourquoi pas moi?
Dans les 7 derniers mois. Je pense que je me le suis dit beaucoup avant, mais dans les 7 derniers mois, je sais pas, en fait, parce que mon chemin, il a été tracé dans les 7 derniers mois. J'ai suivi un chemin sur lequel je m'étais engagée avant, où je m'étais dit pourquoi pas moi avant. Et du coup, j'étais sur ces rails-là, et j'ai continué sur les rails que je m'étais fixé avant, où je m'étais beaucoup dit ça avant. Et du coup, ces 7 derniers mois, je pense pas me m'être reposé cette question, me m'être refait cette réflexion-là. C'était beaucoup plus avant, en fait.
La dernière fois qu'on s'est parlé, tes prochains défis, c'était de finir ta formation, de trouver un stage et de créer ton entreprise.
Yes, bon, je coche les trois cases.
Ouais, bravo.
Bon, normalement, j'avais pas 3 mois pour le faire parce que dans 3 mois, c'était pas possible. Le timing était pas bon, mais on a gratté quelques mois supplémentaires. Mais bon, j'ai coché la case. En même temps, je m'étais pas donné que 3 mois pour le faire, ce qui était pas possible puisqu'il me restait déjà 4 mois de formation et 2 mois de stage. Donc, du coup, c'est cool parce que je coche les cases. Et du coup, tu vas me demander quels sont les prochains.
Exactement.
mon prochain objectif à court terme, c'est mon échéance de début juillet, de me dire qu'il faut que je sois opérationnelle pour faire des devis, donner des cartes de visite, que les gens puissent aller sur mon site et avec mon nom de boîte lancé, etc. Donc pour fin juin, tout début juillet. Et puis après, c'est de trouver mes premiers clients hors réseau perso.
Ouais, ça c'est une vraie étape.
Ouais, voilà, parce que bon, le réseau perso c'est très bien, mais tu sais que voilà, les gens qui te suivent, ils te font confiance, c'est tes proches, ils ont envie de t'aider, etc. Mais je trouve que c'est top aussi d'avoir ces premières demandes, ces premiers rendez-vous clients, prospects qui viennent de l'extérieur. Et juste qui ont envie de te faire confiance, mais qui te connaissent pas, en fait, et que tu as réussi à convaincre. Donc ça, je trouve que c'est un grand défi.
De toute façon, on dit souvent que le début, alors j'allais utiliser le mot réussite, mais je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, le début, quand un projet commence, la mayonnaise d'un projet commence vraiment à prendre, c'est en effet quand tu as des retours ou des clients qui ne sont pas en effet de ton cercle proche et que c'est des personnes qui sortent de tu ne sais même pas où. Et
en fait, ouais, c'est ça. Le prochain défi, je pense que ce serait la reconnaissance des deux personnes qui m'ont fait confiance et qui me connaissaient pas avant, en fait. Je pense que ça, ce serait un super beau défi.
Ah, génial. Est-ce que tu veux nous raconter une dernière petite chose avant qu'on se quitte et qu'il y a la question finale?
Non, pas rien de spécial.
Là, tu n'y attendais pas non plus.
Non, je m'y attendais pas non plus. Après, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses, pas mal de sujets. Donc là, je vois pas. Bon, j'ai pas préparé. Hein. C'est le jeu. Hein.
C'est le jeu, exactement.
Je joue le jeu à fond. Je n'ai rien préparé.
Alors, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Alors ça là je l'attendais. donc j'ai un peu réfléchi et je me dis que c'est sur ces derniers mois j'ai toujours le soutien de mon entourage, mes proches, mon petit comité de soutien évidemment, donc ces gens-là je les remercie tout le temps et voilà, c'est pas original. Après ça paraîtra peut-être pas original non plus, mais en tout cas sur ces 7 derniers mois j'ai envie de remercier toutes les personnes avec qui j'ai partagé ma formation à l'école, donc que ce soit les intervenants ou les personnes avec qui j'étais en cours, parce que les intervenants, je les ai trouvés super bienveillants avec nous, ils nous ont appris plein de choses, ils nous ont partagé plein d'anecdotes de leur quotidien, parce qu'ils sont aussi en activité à côté, et c'est hyper concret, et y a même des profs encore qui nous répondent au mail après, ou sur les réseaux sociaux, quand on a une petite question, quand on a un petit doute sur quelque chose, qui nous donnent des contacts, assurances, etc. Donc c'est quand même super important, et c'est un lien, je pense, qui se crée beaucoup plus facilement quand on est en présentiel que sur les formations à distance. Et surtout le groupe en fait de ma classe. Comme je disais tout à l'heure, je pense pas que ce soit le cas dans toutes les promos, mais en tout cas nous on a eu un groupe vraiment hyper soudé et une entente, une ambiance de fou. On se marre tout le temps, dès qu'on galère, on se marre entre nous, on se remonte le moral, ça fait un bien fou. Dès qu'on a des doutes, on met notre doute sur notre groupe WhatsApp et puis t'as 15 personnes qui te répondent, qui te reboostent, qui te disent mais oui c'est normal moi aussi. Et quand on bloque sur un truc, on s'entraide tout le temps. Donc ça, c'est vraiment, je trouve super important qu'on garde cette émulation de groupe, même après la formation. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ça va peut-être s'estomper avec le temps,
ou peut-être plus ou moins avec certaines personnes, parce que forcément, tu as des plus ou moins d'affinités avec les gens. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait un bien fou à tout le monde, je pense.
Génial.
Donc, c'est eux que j'ai envie de remercier cette fois-ci.
Eh ben super. Un grand merci, Émilie. Et puis, je mettrai le lien vers ton site. On a hâte de savoir.
Je te tiendrai au courant.
Le gros teasing.
Et alors j'espère que ce sera pas le truc qui va retomber comme un soufflé. C'est juste quelque chose qui était perso et qui me tenait à cœur par rapport au fait que ce soit un changement de vie. Mais voilà. Mais merci beaucoup à toi, en tout cas, de me donner cette opportunité de prendre du recul sur mon parcours aussi, parce que c'est un exercice qui m'aide aussi à faire mon auto-comité de soutien, parce que ça permet de prendre du recul sur qu'est-ce que j'ai fait en X mois, et finalement, c'est un peu comme si je participais moi-même à mon comité de soutien en prenant du recul sur ce qui s'est passé à chaque fois, à chaque épisode.
Ah bah, génial, avec grand plaisir. Merci Émilie, et puis à très
Charlotte.
Vite. Alors peut-être pas dans 3 mois, parce qu'on sait qu'on va pas le tenir, mais dans 6 mois.
Ok. Bon, j'espère que j'aurai des défis de relever.
Ouais, je te le souhaite.
Merci
Émilie.
J'espère que ce 3e rendez-vous vous aura plu. Retrouve donc tous les liens vers le site d'Émilie, mais également vers le livre « Et si je changeais de métier ?» et le programme « Trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix » sur le site pourquoipasmoi.co. Et en attendant, je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de « Pourquoi pas moi ?»